Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
8, je pose 2, je retiens 214, 346 422, 36, 7, 300.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre.
94.
À l'Express, on a une journaliste du service Société qui enquête beaucoup sur les prisons françaises. Et c'est elle qui nous a parlé de cette donnée. Il s'agit de Céline Delbecq. Bonjour Céline.
Bonjour Charlotte.
Tu as récemment travaillé sur la radicalisation islamiste des femmes. Et c'est à ce moment-là que tu as noté ce chiffre de 94. À quoi il correspond exactement ?
En fait, 94, c'est le nombre de femmes incarcérées en France pour terrorisme islamiste, pour djihadisme. C'est un record et ça nécessite donc des installations spécifiques. Un second quartier de prise en charge de la radicalisation spécifiquement dédié aux femmes vient d'ailleurs d'être inauguré au centre pénitentiaire de Roanne dans la Loire.
Comment on peut expliquer cette augmentation du nombre de femmes incarcérées pour djihadisme ?
En fait, il y a eu un changement de paradigme il y a 2 ans. Entre 2020 et 2022, pendant plus de 18 mois, le gouvernement français a choisi de ne plus rapatrier les femmes djihadistes parties en zone irako-syrienne pour rejoindre Daesh. Et les choses ont changé en juillet 2022, date depuis laquelle une soixantaine de ces femmes ont été rapatriées en France. La quasi-totalité d'entre elles ont directement été placées en détention provisoire, puis ensuite condamnées à des peines de prison ferme assez lourde, jusqu'à 20 ou 30 ans de réclusion. Sur les 94 femmes aujourd'hui incarcérées, 79 sont ainsi ce qu'on appelle des revenantes, de ces camps notamment, mais il y en a aussi qui n'ont jamais quitté la France, qui n'ont jamais réussi à atteindre cette zone irako-syrienne, et qui en fait projetaient des attentats ici sur le territoire ou participaient autrement au djihad.
De quelle manière ont-elles pu se radicaliser ?
Alors ça a pu être le cas à travers leur famille, à travers des rencontres avec des personnes déjà radicalisées ou évidemment à travers les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important dans la radicalisation des jeunes et surtout des jeunes femmes. Si Daesh s'est effondré, ce phénomène de radicalisation existe d'ailleurs toujours, notamment via un outil qui n'existait pas au début des années 2010, c'est TikTok. Mais il y a aussi des groupes de discussion en ligne, des forums ou alors des vidéos d'influenceuses qui, derrière des séquences de cuisine ou des tutos beauté a priori anodins, vont transmettre une idéologie salafiste, une idéologie radicale à des jeunes femmes vulnérables qui vont ensuite se radicaliser. Cette radicalisation au féminin, entre guillemets, est en fait loin de s'essouffler, même si elle a longtemps été sous-estimée.
Et pourquoi ça ?
En fait, sur ces questions de radicalisation et de terrorisme, on peut faire l'hypothèse qu'il existait un certain biais de genre. Pendant longtemps, une partie de l'opinion publique, et d'ailleurs des magistrats, a estimé que la participation des femmes au djihad et leur engagement au sein de Daesh étaient passifs, collatéraux, voire accidentels. Puisqu'elles étaient des femmes, on considérait qu'elles ne pouvaient qu'accompagner, entre guillemets, les hommes en Syrie, qu'elles représentaient une moindre menace. En fait, en Occident, on a tendance à penser le terrorisme comme un principe uniquement physique qui se traduit par la violence physique et donc les femmes ont été considérées comme presque inoffensives. Mais les choses ont commencé à bouger à partir de 2016.
Que se passe-t-il à ce moment-là ?
Eh bien, des djihadistes ont essayé d'incendier une voiture remplie de bonbonnes de gaz juste à côté d'une terrasse bondée à proximité de Notre-Dame de Paris. Tu t'en souviens certainement. La voiture n'a jamais pris feu, l'attentat a été raté, les terroristes ont été arrêtés et toutes les personnes qui ont participé à cet attentat étaient des femmes. Ça, ça a participé à la prise de conscience qu'en fait, les femmes pouvaient être aussi dangereuses que les hommes, qu'elles pouvaient être des terroristes, comme les autres. Et ça, ça a aussi amené l'État français à s'intéresser aux spécificités de l'engagement terroriste de ces femmes radicalisées.
Et quelles sont ces spécificités ?
Eh bien, en Syrie, elles ont parfois participé directement à la machine de guerre de Daesh en remplissant des missions de logistique, de communication, de propagande. On estime aussi que par la maternité, par la transmission d'idéologie à leurs enfants notamment, elles ont largement participé à la pérennisation du système terroriste. Sans oublier d'ailleurs que certaines ont également pris les armes, notamment lorsque Daesh a commencé à manquer de main-d'œuvre. Mmh. Et tout cela vaut motif d'incarcération, évidemment, notamment depuis l'élargissement de la notion légale d'association de malfaiteurs terroristes, qui date justement de 2016, de quelques mois avant l'attentat de Notre-Dame. À cette époque, la Cour de cassation a considéré que le simple fait d'adhérer à une organisation terroriste était constitutif d'un délit de terrorisme. Mmh. L'acte de violence physique en lui-même dont on parlait tout à l'heure ne devient qu'un motif parmi d'autres.
Céline, on a bien compris pourquoi le nombre de femmes incarcérées pour terrorisme a augmenté. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de femmes en voie de radicalisation en ce moment même ?
Alors, il est quand même très difficile d'obtenir des chiffres précis sur le sujet. Tout dépend évidemment en plus de où commence et où s'arrête la notion de radicalisation. Ce qu'on peut dire, c'est que le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui s'occupe notamment de surveiller et d'accompagner les personnes signalées comme étant en voie de radicalisation, donc en fait c'est celles qui ne sont pas considérées comme une menace imminente mais qu'on surveille évidemment, observe une tendance à l'augmentation du public féminin ces derniers mois. Ce comité pilote notamment des cellules départementales qui s'occupent en fait localement de l'accompagnement social et psychologique des personnes considérées comme en voie de radicalisation qui ont été signalées. Et ces cellules ont constaté une augmentation constante du public féminin entre 2022 et 2023, qui est passé de 44 à 46% en un an. C'est loin d'être anodin, et notamment chez les mineurs, puisque les mineurs suivis aujourd'hui par ces cellules sont majoritairement des jeunes filles. Mmh. Elles sont 51% en 2023 contre 46% il y a un an.
Ce qui explique pourquoi la radicalisation féminine est aujourd'hui particulièrement surveillée par les autorités. Merci Céline.
Merci à toi.
Je rappelle que tu es journaliste au service Société de l'Express et que toutes tes enquêtes sur le système carcéral français sont à retrouver sur l'express.fr. Si vous n'avez pas encore souscrit d'abonnement, chers auditeurs, profitez-en, le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne rater aucun des autres déchiffrages à venir dans la loupe, il vous suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast habituelle, Podmust, Deezer ou Spotify par exemple. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Sébastien Salis. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky, smooth Tree Runner, the responsive foam and extra grip of the Tree Dasher, or the classic low-top look of the Tree Piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds tree shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.